Radio Prague, les informations. Bonjour, Martin Kuba a été nommé nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce. Le président de la République a signé l'amendement au Code du Travail. Et puis en football, la République tchèque s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2012. Comme annoncé en titre, Martin Kuba, membre du Parti civique démocrate, ODS, a été nommé ce mercredi nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce par le président de la République, Václav Klaus. Martin Kuba est président de l'ODS dans la région de Bohême du Sud. Il succède donc à Martin Kocorek, soupçonné de corruption et qui a démissionné de ses fonctions de ministre suite aux révélations sur d'importantes sommes d'argent qu'il avait placées sur le compte bancaire de sa mère. Le président de la République, Václav Klaus, a signé ce mercredi l'amendement au Code du travail. Ce texte modifie notamment le montant des indemnités de licenciement ainsi que la durée maximale des contrats à durée déterminée ou encore des périodes d'essai. La loi permet ainsi de prolonger la période d'essai des employés occupant des positions dirigeantes ou importantes à 6 mois au lieu de 3 actuellement, comme pour les autres employés. Par ailleurs, des contrats à durée déterminée ne pourront être signés que 3 fois en suivant avec le même employeur et leur durée totale ne pourra pas dépasser 3 ans. Concernant le montant des indemnités de licenciement, un employé ayant travaillé moins d'un an dans une entreprise ne recevra plus que l'équivalent d'un mois de salaire et l'équivalent de 2 mois de salaire lorsqu'il aura travaillé moins de 2 ans. En revanche, 3 mois de salaire lui seront versés comme cela est déjà le cas aujourd'hui lorsqu'il aura été employé au moins plus de 2 ans. La qualité de l'air s'est améliorée ce mercredi un peu partout en République tchèque et notamment dans les régions de Bohême du Nord et de Bohême centrale où les usines peuvent de nouveau fonctionner à plein régime. Ailleurs, en Moravie du Nord comme à Prague et dans d'autres régions, la concentration de smog continue de dépasser la limite autorisée dans la plupart des stations de mesure. La quantité de polluants atmosphériques reste en supérieure à 50 microgrammes par mètre cube. Le phénomène d'inversion qui forme une sorte de couvercle maintenant la pollution à très faible altitude dure depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines en Moravie du Nord. L'Institut hydrométéorologique tchèque ne prévoit aucune amélioration notable dans la semaine à venir. La visibilité s'est-elle quelque peu améliorée ce mercredi à l'aéroport de Prague-Rosigné en raison du brouillard et du smog que nous venons d'évoquer. 6 vols ont toutefois été annulés et un avion a été détourné vers un autre aéroport. La pollution atmosphérique qui touche depuis plusieurs jours la majorité du territoire tchèque perturbe le trafic aérien. À cause de la visibilité réduite, l'aéroport de Prague a été contraint d'annuler plus de 20 vols mardi et de détourner 7 avions. On passe au sport et au football. L'équipe de République tchèque s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2012 mardi soir en battant le Monténégro 1-0 à Podgorica en match retour des barrages. Au match aller à Prague vendredi dernier, les Tchèques s'étaient déjà imposés 2-0. En juin prochain, en Pologne et en Ukraine, la République tchèque participera à sa 5e phase finale consécutive de championnat d'Europe. Lors du tirage au sort des groupes, elle figurera cependant dans le chapeau 4, c'est-à-dire celui des 4 pays supposés comme étant les plus faible selon les critères de l'UEFA, à savoir le Danemark, la France, l'Irlande et la République tchèque. Donc, on termine avec un mot de météo après une journée de mercredi très nuageuse avec un épais brouillard. Le soleil est un peu plus présent un peu partout dans le pays ce jeudi, jour de la fête des Mahulena. Les températures restent fraîches et varient entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinkova que vous retrouvez tout de suite. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Le 17 novembre, nous fêterons non seulement le 22e anniversaire de la révolution de velours, mais aussi la 3e journée mondiale de la prématurité. Le nombre de bébés prématurés augmente en République tchèque aussi. Nous parlerons de ce phénomène dans un instant. Ensuite, évidemment, le football, car l'équipe tchèque s'est qualifiée pour les championnats d'Europe qui se dérouleront l'été prochain. « Le 17 novembre se déroulera la Journée mondiale de la prématurité, une manifestation lancée en 2009 à l'initiative de SOS Préma, une association française d'aide aux parents d'enfants prématurés. En République tchèque comme en France, la prématurité, donc la naissance d'un enfant avant la fin du 8e mois de grossesse, représente plus de 8% du total des naissances. Dans l'Hexagone, les statistiques parlent de 65 000 bébés nés avant terme, en République tchèque de 8 500 enfants préma, ce qui représente une augmentation de plus de 60% au cours de 9 dernières années. Le pédiatre Petr Zoban travaille à l'hôpital de Prague-Motol, dans un des 12 centres tchèques de néonatologie destinés aux nouveau-nés prématurés. Nous l'avons rencontré lors d'un colloque organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité à Prague.
Ces dernières années, le taux de naissance prématurée a encore augmenté en République tchèque. Nous nous approchons du nombre de 10 000, ce qui est un chiffre vraiment très élevé. Malheureusement, il continue à progresser dans tous les pays développés. En Europe, comme sur les autres continents, la République tchèque ne fait pas exception. Évidemment, nous nous interrogeons sur les causes de cette augmentation. Elles sont nombreuses et il faut avouer que certaines demeurent inconnues, même si la médecine déploie des efforts considérables pour faire baisser le nombre de naissances prématurées, on en arrive finalement à un effet contraire.
Le développement massif en République tchèque comme ailleurs de la procréation médicale assistée est souvent mentionné comme un des facteurs principaux expliquant l'augmentation du taux de naissance prématurée. Mais Petr Zoban ne partage pas entièrement cette opinion.
Cette explication domine le débat sur la prématurité ces 10-15 dernières années, marquée par la vulgarisation des méthodes de procréation médicale assistée. Il est vrai que cette dernière favorise les grossesses multiples qui se terminent très fréquemment plus tôt qu'elles ne le devraient. C'est donc plutôt un effet secondaire et non pas la cause principale. Un des facteurs importants en termes de prématurité, c'est le recul de l'âge de la grossesse. Il y a 30 ans, les Tchèques accouchaient de leur premier enfant à 20-25 ans. Aujourd'hui, elles ont entre 30 et 33 ans et un âge plus élevé chez la mère représente toujours un certain risque. Évidemment, il y a d'autres facteurs encore qui peuvent mener à une naissance prématurée, comme le diabète ou l'hypertension.
Au cours des 12 dernières années, la médecine tchèque a réussi à baisser de moitié le taux de mortalité en termes de prématurité dite modérée, donc celle qui survient entre la 34e et la 37e semaine d'aménorrhée. Un succès incontesté, mais qui mène avec la progression des naissances prématurées à un déficit important d'espace d'accueil. Les spécialistes dénoncent également l'absence d'un système préventif de soins à long terme pour les enfants prématurés. Lenka Novotna est présidente de l'association civique Nedoklopko qui apporte depuis 2006 un soutien aux enfants prématurés et à leurs familles. D'après elle, les parents manquent avant tout de soutien psychologique.
Moi-même, je suis mère de jumeaux nés il y a 6 ans à la 27e semaine de ma grossesse. Mes enfants ont eu des débuts difficiles. Maintenant, ils sont en bonne santé, mais nous sommes confrontés aux problèmes liés à leur scolarisation. Cette expérience m'a poussée à fonder cette association. Moi-même, j'ai eu un soutien psychologique efficace, mais ce n'était pas le cas de mon entourage. Ma famille ne savait pas comment s'y prendre. En Allemagne, par exemple, on distribue des brochures explicatives aux membres de la famille du nouveau-né, et cela aide beaucoup. Il n'est pas tout à fait courant non plus qu'un service de néonatologie tchèque ait son psychologue qui s'occuperait des parents et aussi du personnel médical, comme c'est le cas des services d'oncologie, par exemple. C'est une question de financement. Non seulement il faut payer cette personne, mais il faut surtout la former.
Pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la prématurité, la Fondation européenne pour les soins aux nouveau-nés présentera les 22 et 23 novembre prochains son plan d'action au Parlement européen. C'est fait, l'équipe tchèque de football est qualifiée pour les championnats d'Europe qui se dérouleront l'été prochain. Après une victoire 2-0 à Prague, vendredi au match aller, le capitaine Tomáš Rosický et ses coéquipiers sont allés s'imposer mercredi au Monténégro. Retour sur cette qualification avec Alexis Rosenzweig.
Jiráček. Udělal to parádě, pojď synu! Je to gol!
Pocinu Alefis, c'est par ces mots que le commentateur de la télévision tchèque a encouragé Petr Jiráček au moment de son dribble et de sa frappe qui a trouvé le chemin défilé, comme on dit, et permis ainsi à la représentace, la sélection nationale, de se mettre définitivement à l'abri d'un retour des joueurs du Monténégro qui croyaient encore en leur chance. Il aura fallu attendre la 80e minute d'un match plutôt terne pour voir ce but de Petr Jiráček, l'un des hommes en forme du moment, qui fait partie des quelques joueurs du Viktoria Plzeň récemment sélectionnés en équipe nationale et qui semble apporter une certaine fraîcheur, à l'image du jeune Václav Pilaj, qui avait inscrit le joli premier but lors du match aller vendredi soir. Premier but pour Jiráček donc en sélection, après une feinte de passe et un petit crochet pour tromper le gardien monténégrin qui ne peut que trop légèrement détourner le ballon du pied. On écoute Petr Jiráček.
Já jsem nad tím vůbec na tom hřiště nepřemýšlel, já jsem prostě viděl, že oni jsou celkem vysoko a že by to mohlo víc.
Je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. J'ai juste vu que les défenseurs étaient montés plus haut et que ça pourrait passer. En plus, je restais sur mon occasion manquée au match aller à Prague. Je savais que si je le marquais, on serait beaucoup plus près de l'euro. J'y ai pensé pendant ces quelques secondes. Je ne suis pas un buteur, je ne marque pas beaucoup, mais ce but-là est certainement le plus important de ma carrière.
L'équipe du Monténégro a longtemps essayé, poussée par le public motivé du stade de Podgorica, mais la défense tchèque, la barre transversale et surtout le gardien n'ont rien laissé passer. Petr Čech, qui jouait encore pourtant avec son masque, en plus de son casque, à cause de sa récente fracture du nez, a une nouvelle fois sorti quelques arrêts décisifs. Et en plus d'être l'un des plus grands gardiens du monde depuis plusieurs années déjà, Petr Čech est aussi un exemple de fair play qui manque trop souvent aux joueurs de foot. En début de deuxième période, alors que le match était tendu et qu'un but aurait permis aux Monténégrins d'y croire davantage, le magnanime gardien tchèque avoue à l'arbitre qu'il a touché le ballon du bout des doigts et offre ainsi un corner à l'adversaire. Respect à Petr Čech et bravo aux Tchèques qui ont su sortir de ce déplacement difficile à Podgorica et se qualifier pour l'Euro 2012. Les nouvelles recrues issues d'équipes du championnat national semblent être de bons choix pour l'entraîneur, à l'image des buteurs de Plzeň en match de barrage, mais aussi d'un Théodore Gebrselassie imperturbable en défense. Mention spéciale à l'attaquant remplaçant Milan Baroš, qui a réussi à prendre un carton jaune avant de rentrer sur le terrain. Le meilleur buteur de l'Euro 2004 peut toujours réserver des surprises. L'Euro 2012, ce sera à partir du 8 juin en Pologne et en Ukraine. Les Tchèques sauront déjà le 2 décembre dans quel groupe ils seront placés après le tirage au sort organisé à Kiev. Depuis l'indépendance du pays en 1993, les Tchèques ont toujours réussi à se qualifier pour l'Euro. Ils ont été finalistes en 1996 et demi-finalistes en 2004.
Dans les chapitres de l'histoire, aujourd'hui, Radio Prague reçoit Marie-Elisabeth Ducreux, historienne, directrice de recherche au CNRS et cofondatrice et première directrice du CEFRES à Prague. Nous en avons déjà parlé en antenne. Le CEFRES, Centre français de recherche en sciences sociales, a été ouvert à Prague en 1991. Pour son 20e anniversaire, un colloque auquel étaient conviés de nombreux chercheurs français, tchèques et d'Europe centrale s'est tenu début novembre. Au micro de Guillaume Narguet, Marie-Elisabeth Ducreux retrace l'histoire de ce centre de recherche. Tout d'abord, elle revient au rapport universitaire et scientifique qui existait entre la France et la Tchécoslovaquie au début des années 90.
Chapitre de l'histoire.
Les relations entre la Tchécoslovaquie et la France, au niveau institutionnel, après 69, à part quelques exceptions rares, s'était éteinte. C'est-à-dire que par principe, un grand nombre d'institutions françaises avaient cessé tout contact avec la Tchécoslovaquie normalisée. Alors de temps en temps, on leur envoyait un normalisateur ou quelqu'un qui avait été choisi ou quelqu'un qui arrivait de temps en temps à passer entre les gouttes. Ça arrivait aussi, mais dans des histoires compliquées, dans des histoires locales compliquées. Mais en réalité, il n'y avait pas de contact, si vous voulez. Alors il y avait la Fondation Soros qui essayait de faire des choses, mais pour aider les dissidents. Et avec la Tchécoslovaquie, il n'y avait pas de contact, si vous voulez. Des Hongrois, des Polonais venaient, par exemple, à la Maison des sciences de l'homme ou à l'École des hautes études ou ailleurs, mais pas tchèques. Absolument aucun tchèque, ou de temps en temps, mais je veux dire, par exemple, c'est pas vrai, parce que František Šmarel, qui était lui-même, disons, mis de côté, mis dans un placard, qui avait conduit des tramways, qui ensuite était au musée Hussite de Tabor, des amis français du Collège de France ont réussi à l'inviter. Il est venu faire deux, trois conférences, parce que voilà, c'était un petit peu ce genre de pratique de temps en temps développée par en dessous. Certainement beaucoup d'efforts et beaucoup de petites pressions qui faisaient qu'à un moment donné, ça paraissait inévitable de laisser la personne sortir quelque temps. Ça a été le cas aussi pour Jozef Macek, qui est venu aussi au Collège de France. František Šmarel, je parle de l'historien. Mais il y en a d'autres qui sont venus comme ça. Jozef Valka est venu un petit peu, mais je crois qu'il est venu dans un voyage personnel, ce qui était aussi très difficile à faire. Vous voyez, donc il y a eu des mais c'était au compte-gouttes et pas dans des coopérations organisées.
Mmh. Quels étaient à l'époque les chercheurs français intéressés par la Tchécoslovaquie
C'est assez simple, parce que bon, je m'excuse si j'en oublie beaucoup, mais en 89, écoutez, il y avait Pierre Grignon, que vous avez entendu hier, qui ne parle pas le tchèque, mais qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Paris-Prague. Et qui s'est toujours beaucoup intéressé à la sociologie des intellectuels et des organisations, et qui a toujours travaillé en partant, disons, d'une analyse de ce qui se passait ici en Tchécoslovaquie. C'est très rare, donc ça mérite d'être souligné. Il y avait Jacques Ropnik, bien sûr, il y avait Antoine Marès, mais il y avait Françoise Maillard qui a terminé sa thèse, je crois, vers 86 ou 87, donc et puis il y avait moi. Et j'ai à peu près fait le tour. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait Bernard Michel, bien sûr, dans la génération précédente. Parce que là, vous voyez, à part Pierre Grémion, qui est plus âgé, c'est tous des gens de la même génération. Donc, dans la génération précédente, si. Il y avait Bernard Michel, bien sûr. Jean Béranger, mais Jean Béranger n'a jamais beaucoup travaillé avec la Tchécoslovaquie. Bon, après, il y avait des civilisationnistes. Hein. Il y avait des lecteurs tchèques à l'école des langues orientales, à l'INALCO. Mais c'était des tchèques hein, qui enseignaient le tchèque. Et puis des réalités, comme on dit, qui étaient d'ailleurs des gens admirables, hein, tout à fait. Mais c'était des émigrés, vous voyez. Ces deux-là étaient des émigrés. Après, il y avait évidemment des professeurs associés à la Sorbonne de temps en temps, mais c'était des tchèques. Ça veut dire des statuts pas toujours simples. Et puis, des civilisationnistes, le professeur de tchèque à l'INALCO, des gens comme ça. Mais si vous voulez, c'était pas. Si vous voulez, en termes de sciences sociales et humaines, j'ai fait le tour en vous donnant les noms que je vous ai donnés. Et on était beaucoup mieux placés que pour d'autres pays. Finalement, il y avait beaucoup plus de gens, on tenait presque sur les doigts d'une main, mais qui s'était engagé dans des travaux sur la Tchécoslovaquie ou sur l'histoire de la Bohème, beaucoup plus, je dirais, que sur la Hongrie. Il y en avait aussi, mais pas beaucoup. Je dirais la part des émigrés était peut-être plus importante. C'est aussi pour ça qu'on a invité Pierre Canet, parce qu'il faisait partie de ces interlocuteurs parisiens.
Que pensez-vous du thème qui a été retenu pour ce colloque, à partir de l'Europe centrale, analyser un monde qui change?
Mais je pense que c'était une bonne idée de Françoise Maillard, parce que bien que le mur de Berlin et les régimes communistes soient tombés en 1989, aujourd'hui en 2011, l'intérêt général en France, par exemple, pour la vraie réalité de la République tchèque et des pays voisins, est très peu informé. Je dirais pas qu'il est faible. Il est très haut sur un plan touristique. L'attirance de Prague, des belles villes de la République tchèque. Ça c'est évidemment très important. Mais je pense que la compréhension, la perception que les Français cultivés, intellectuels, les chercheurs aussi en sciences sociales et humaines peuvent avoir de ce pays, n'est pas du tout, et de ce pays, de son histoire, de ce qui s'y passe, de la situation aujourd'hui, de la façon dont ils conduisent leur politique, etc., est extrêmement faible, extrêmement peu informée, peu pertinente. Ça serait d'ailleurs vrai pour tous les autres pays. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette dimension de médiation qui n'est pas une médiation, qui cherche à ne pas être superficielle, mais à susciter des travaux communs, donc in fine une meilleure compréhension de ce qu'on fait ensemble. Mmh. Trouver finalement, arriver à, en partant de terrains différents, arriver à construire ensemble des mêmes objets intellectuels et scientifiques.
Alors on va revenir sur la fondation du CEFRES au début des années 1990. Comment ce CEFRES est-il né? Quels étaient ses objectifs, ses missions à l'époque, et pourquoi le choix de la Tchécoslovaquie et de Prague?
Alors, d'abord, c'est pas un centre concentré sur l'Europe centrale, c'est un centre qui fait l'interaction, qui fait la médiation entre qui s'est appuyé sur les quelques rares spécialistes français de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie et d'autres pays à côté, pour pouvoir justement construire un espace de médiation scientifique où pourraient se croiser finalement des recherches sur beaucoup d'autres choses, pas uniquement sur l'Europe centrale, mais à cette interaction, à cette intersection. Hier, il y a eu une intervention d'un orientaliste tchèque qui travaille sur les pays arabes, le Proche-Orient. Ça aussi, ce sont des choses que nous pouvons faire et que nous avons fait, que le CEFRES a fait, c'est-à-dire de mettre en relation des spécialistes français, ou d'ailleurs pas toujours français, souvent c'est des groupes internationaux, c'est des réseaux, enfin, être une base pour des réseaux internationaux, et mettre en relation des recherches ici, des recherches d'ici, avec ce qui se fait ailleurs, et peut-être qu'on peut faciliter les contacts, faciliter l'intégration, voilà. Alors au début, la définition était celle-là, les circonstances étaient très différentes. Le régime communiste venait de s'écrouler. Il y avait beaucoup de choses ici. Ça devenait un pays et une région du monde passionnante. C'était ce qui était pour la majorité des Occidentaux. Ah ben ça y est, l'histoire se faisait ici. Ici, à Prague, à Berlin, bien sûr, à Varsovie. Etc. Puis après, il y a eu la Roumanie, enfin, après, il y a eu la Russie. Mais vous voyez, donc il y a eu une succession comme ça d'événements extrêmement importants. Ben, vous savez bien, il y a eu l'idée de la fin de l'histoire, avec l'avènement général de la démocratie, c'était la fin de l'histoire. C'est incroyable d'ailleurs qu'on ait pu même réfléchir sérieusement à ce genre d'hypothèse. C'était pas mon cas, mais bon. Ensuite, vous voyez, les choses ne s'arrêtent pas. Et les choses ne s'arrêtent pas. Il y a eu la guerre en Irak, il y a eu les guerres en Yougoslavie. Alors, la Yougoslavie, c'est encore un peu la même zone. Maintenant, il y a eu l'attaque Al-Qaïda, la question de l'islam, du terrorisme. Maintenant, il y a les printemps arabes. Donc, je dirais que tout ça est d'ailleurs extrêmement important. Ça prouve qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est la crise de l'euro, la crise financière à l'échelle mondiale aussi. Donc il est normal que l'intérêt qui était très très vif en 89-90 pour une Europe centrale qui paraissait justement au centre des questions les plus importantes pour le monde entier, hein, en tout cas pour l'Europe et les États-Unis, se soit effacé. En plus, il y a eu autre chose. Il y a eu l'intégration européenne de ces pays dans l'Union européenne, l'intégration en 2004. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui tout le monde l'a souhaité, bien sûr, mais en même temps, c'est quelque chose qui est quand même perçu avec parfois, je voudrais pas dire des réticences, mais quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire, oui, ils sont là, mais...
Par rapport à tous les événements que vous avez cités qui se sont passés au cours des deux décennies qui se sont écoulées, donc entre la fondation du CEFRES et aujourd'hui, par rapport à ça, quel regard portez-vous sur, sur l'évolution du CEFRES et quel pourrait être son rôle dans les prochaines années.
Alors écoutez, le CEFRES, il faut d'abord comprendre une chose. C'est une toute petite structure. Les directeurs successifs, les collaborateurs, les doctorants, français, tchèques et autres, d'ailleurs pas uniquement, ont toujours essayé de faire le maximum, de rayonner. Mais la meilleure façon de rayonner, c'est de le faire par ses propres travaux, vous voyez. Et les travaux, bien sûr, en partenariat avec des Tchèques, des Slovaques, quelquefois des Allemands, quelquefois. Enfin, c'est pas une question de nationalité, c'est une question de sujet. Une question de sujet et de réseau. Et de réseau, de dynamique de réseau, hein. Impulsé d'ici, une dynamique de réseau européen, impulsé d'ici, disons, une franco-tchèque, vous voyez. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ça doit rester. Maintenant, évidemment, on est à une période de restriction budgétaire, de révision générale des politiques publiques, comme on dit en France, et nous ne savons pas très très bien qu'est-ce que les différentes instances vont décider de faire. Parce que partout, il est question de faire des coupes de budget, de restructurations. Donc, écoutez... comme tout, le CEFRES n'échappe pas à ce débat, ou qu'il n'est même pas un débat, disons, à cette attitude. Je dis attitude parce que moi, je ne suis pas sûre que ce soit une contrainte, et je pense que le CEFRES a des atouts pour résister. Encore faut-il que ces atouts soient perçus.
C'était l'historienne Marie-Elisabeth Ducreux, cofondatrice du CEFRES à Prague. Elle était au micro de Guillaume Narquet. C'est la fin du programme d'aujourd'hui. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention. Demain, Radio Prague vous proposera une émission spéciale 17 novembre.